Le message qui va suivre vous est présenté par l'Église, la maison du bâtisseur. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifiés en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Ma voix, mes mains, mon âme, mon cœur, tout ce que je suis. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence et le règne, maintenant et à jamais. Conduis, instruis et inspire toutes choses pour la seule gloire de ton saint nom, Père de grâce. Nous ne regardons ni à droite ni à gauche, nous fixons les regards sur celui qui est le rémunérateur de notre foi. Son nom est Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin. Le commencement et la fin de toutes choses, le premier et le dernier, celui qui tient le livre de vie, celui qui est ressuscité des morts, car le tombeau n'a pas pu le retenir. Voici le Dieu que nous prions. Nous ne prions pas un Dieu protestant, nous ne prions pas un Dieu catholique, nous ne prions pas un Dieu musulman, nous ne prions pas un Dieu bouddhiste. Celui qui est, qui était et qui vient, le Shiloh, celui qui a créé les cieux et la terre, son nom est Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu Tout-Puissant en personne. Voilà pourquoi il faut savoir qui nous prions, il faut savoir qui nous célébrons, il faut savoir qui nous invoquons. Et celui que nous invoquons est celui qui chasse les démons, celui qui guérit les malades, celui qui parle aux arbres, celui qui fait taire la tempête, celui qui nous permet de marcher même dans le vide et sur l'eau. Son nom est Yeshua. Alors est-ce que quelqu'un peut faire monter des ferveurs, des clameurs vers notre Dieu? Que les murs tremblent. 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 Matata Ebos. Est-ce qu'on peut faire monter des acclamations prophétiques? Une louange prophétique vers Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu et acclame bien fort le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Avant de t'asseoir, je voudrais que tu trouves 5 personnes et que tu leur dises: Excellence, bienvenue à l'ambassade de Christ. C'est une grâce et un privilège pour moi d'être là avec toi aujourd'hui. Bien, il ne sait pas que c'est une excellence. Il y en a, vous ne savez pas qui vous êtes et ce et quelle valeur vous avez aux yeux de Dieu. Tu sais, si le Seigneur est allé mourir à la croix pour moi et pour toi, c'est que nous avons une très très grande valeur à ses yeux. Nous avons une grande valeur. Et nous sommes des excellences en Christ. La Bible nous appelle le roi. Et quand les rois décident de se retrouver quelque part, alors cet endroit est maintenant une royauté, une ambassade. Nous l'avons décrété dès le moment où nous sommes entrés ici. Et il y a une différence entre les gens ordinaires et les officiels, des personnes importantes, des personnes qui ont une très grande valeur aux yeux de Dieu. La Bible nous appelle ministre et tu es un ministre. Dis à celui qui est près de toi, tu es ministre. Tu es ministre de l'Évangile. Et tu portes, comme Paul dit, ce précieux trésor dans un vase de terre. Et ce trésor, Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est que tu le manifestes au monde et que le monde puisse découvrir au travers de ta vie la splendeur de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes en conseil des ministres et en conseil des ministres, nous allons parler... discuter, traiter des affaires du royaume des cieux. Amen. Nous sommes à la maison. Et à la maison, on discute des choses sérieuses parce que nous sommes devant le Seigneur. Et devant le Seigneur, au travers de sa parole, il nous instruit, il nous parle, il nous enseigne et il nous donne aussi instruction pour que nos vies soient différentes et pour que nous puissions marcher vers notre destinée. Alléluia. Aujourd'hui, je ne peux pas traîner parce que je n'ai pas envie de traîner après le temps. Donc je voudrais qu'on prenne nos Bibles dans le livre de Luc 19. Luc chapitre 19. C'est la même parabole de Jésus, sauf qu'elle est dite d'une autre manière dans Luc chapitre 19. Aujourd'hui, je voudrais nous interpeller sur un point très important et vous allez comprendre pourquoi je vous fais lire ce passage. Il est écrit ceci dans le livre de Luc au chapitre 19 à partir du verset 12. Nous lisons. Jésus dit encore, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. La version qui est affichée au mur, c'est la version français courant où il est écrit « Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. » Cependant, ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de savoir quel bénéfice chacun en avait fait. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, ta pièce d'or a rapporté 10. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le deuxième vint et dit, « Seigneur, ta pièce d'or en a produit 5. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi responsable de 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé.
Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? Dis-moi, intérêt. Puis il dit à ceux qui étaient là, enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. Il lui dit, Seigneur, il a déjà 10 pièces d'or. Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ils n'ont pas voulu que je règne sur eux. Amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais continuer notre série sur le mystère de la sagesse. Et aujourd'hui, je vais me focaliser sur ce sujet. La puissance de l'intelligence financière pour investir et créer de la richesse. Dis avec moi, la puissance de l'intelligence financière pour investir et créer de la richesse. Alléluia. Voici le genre de sujet qui ne sont pas courants dans notre pays, dans les églises. Et tu vas comprendre pourquoi. Dans le cadre de notre série, si maintenant plusieurs semaines, nous en sommes à notre septième semaine, et le Saint-Esprit me convainc de rester sur ce sujet, parce que tout simplement, il y a des choses qui sont en train d'être plantées. Et pour beaucoup d'entre nous, je nous invite à prendre très au sérieux cette parole en cette saison de l'année. Cette année 2017 est une année très particulière. C'est une année où non seulement Dieu fera des choses extraordinaires, mais c'est une année où la faveur divine va dépendre des résolutions financières que tu vas prendre pour ta vie. Et tout le monde n'opère pas à la même dimension. Il y en a qui sont encore étudiants, il y en a d'autres, vous êtes déjà actifs dans la vie, il y en a d'autres, vous êtes en recherche d'activité. Mais une chose est sûre, c'est que tout le monde a obligation de s'intéresser à l'aspect financier de sa vie. Parce que tout simplement, Dieu s'intéresse à ton argent. Tourne-toi vers celui qui est près de toi et dis-lui, Dieu s'intéresse à ton argent. Et dis-lui encore, Dieu veut que tu prospères financièrement. Je précise financièrement, pourquoi? Parce que il y a un aspect très important au sein de l'Église de Christ. C'est que les gens aujourd'hui dans les églises, premièrement, ont de gros problèmes financiers. Ont de très gros problèmes financiers. Très sérieux. Et si on n'y prend point garde, beaucoup d'entre vous, vous finirez très pauvres dans la vie. Si vous ne vous intéressez pas à l'aspect financier de votre vie. Et c'est très sérieux. Car la pauvreté est une très mauvaise chose. Amen. Et c'est important de s'intéresser aux finances. Dieu veut que tu prospères. Le pourquoi? Parce que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Pour ces projets, tu auras besoin d'argent. Mais il y a un problème dans l'église. Il y a un gros souci dans l'église. C'est une maladie qui gangrène dans l'église. Et moi, c'est une maladie qui me révolte. Et c'est pour cela que je suis convaincu que Dieu m'a spécialement mandaté dans ta vie pour t'enseigner ces choses-là. Parce que moi, j'opère là-dedans. Je suis en chemin vers ça. C'est-à-dire, le jour où tu comprends le chemin vers la création de richesses, tu vas comprendre que c'est une aventure qui dure des années. La fin vaut mieux que son commencement. D'accord? Jamais tu vois quelqu'un de très prospère qui est devenu prospère comme ça en claquant des doigts. C'est quelqu'un en général qui a commencé depuis très longtemps et qui a bien fini. Et c'est pour cela que Dieu nous instruit à enseigner ces choses aujourd'hui, car beaucoup d'entre vous, vous êtes très jeunes. Pour la grande majorité de vous, vous êtes très jeunes. Les adultes aussi ont besoin de ça. D'accord? Tout le monde a besoin de ça. Mais une chose est sûre, c'est que si on ne s'intéresse pas à ça, on va avoir des problèmes. Et ce qui gangrène l'église, le problème qu'il y a dans l'église aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens fréquentent les églises. On ne leur enseigne pas ces choses. Et quand on touche ce sujet, on leur enseigne très souvent des choses erronées. Ou très souvent, on ne leur enseigne pas suffisamment ce qu'il faut pour qu'ils puissent prospérer. Parce qu'en fait, nos églises, beaucoup, et je le dis avec beaucoup d'humilité, nos églises pour beaucoup ont à leur tête des pasteurs qui eux-mêmes ne sont pas prospères financièrement. Donc, tu ne peux prêcher que ce que tu as. Un pasteur qui n'est pas prospère financièrement et qui en plus ne s'intéresse pas à l'aspect financier ne peut pas enseigner ça à ses brebis. Il ne peut pas. Il faut opérer dans ce monde-là et il faut avoir la révélation de ça pour pouvoir transmettre ça aux gens. C'est pour cela que beaucoup de nos églises sont pauvres. Les pasteurs eux-mêmes sont pauvres. Les pasteurs sont des hommes de Dieu qui craignent le Seigneur, qui cherchent Dieu, mais qui ont des luttes financières pas possibles dans leur foyer. C'est pour cela que beaucoup se retrouvent à prendre les dîmes et les offrandes dans les paniers. Parce qu'au bout d'un moment, même si tu aimes vraiment le Seigneur, quand la souffrance prend le dessus, tu es obligé d'aller voler dans le panier. Et pour pouvoir enseigner ça à l'église, il faut opérer là-dedans. Et notre problème, c'est que pour beaucoup de chrétiens, on a été très très mal enseigné sur le sujet. C'est pour cela que dès que vous citez le sujet de l'argent, tout de suite, les cheveux se mettent debout sur les têtes des gens. Parce que tout simplement, on a formaté l'esprit de beaucoup, de la plupart des chrétiens, à argent égale prospérité, prospérité égale le diable. Et dès que tu touches le sujet de l'argent, il y a des mots interdits, des mots très tabous dans l'église. Richesse, on ne peut pas parler de richesse. La richesse, c'est pour les gens du monde, ils sont perdus, ils ne connaissent pas Jésus. Il faut les laisser se perdre avec l'argent. D'accord? Donc tout ce qui est création de richesse, quand on parle d'intelligence financière, même là, il y en a déjà, ils se disent, mais le pasteur va nous emmener dans quoi? Dans un cours de finance ou quoi? Il y a trois sujets dans l'église qu'on ne traite pas suffisamment, qui pourtant, les chrétiens recherchent ça en cachette, ils sont chez eux. Le premier, c'est la politique. Dis avec moi la politique. On ne parle pas de politique dans l'église. Parce que tout simplement, si tu tousses au sujet de la politique, on va dire que voilà un pasteur qui prend parti, on ne veut plus rester avec lui. Si on se met à parler de politique dans l'église, on va dire on ne peut pas mélanger l'évangile et la politique. Figure-toi, tu ne peux pas séparer la politique et Dieu. Tu ne peux pas. Et si tu ouvres ta Bible, tu vas te rendre compte que la Bible est un livre politique. La Bible, tout l'Ancien Testament, au temps des rois, David et après David, c'est coup d'État sur coup d'État. Ce ne sont que des intrigues politiques de rois, etc., de guerre, etc. Toute la Bible est un livre politique. Jésus-Christ, que tu aimes tant, est mort pour une raison politique. Parce que Jésus-Christ menaçait le trône de César. C'est pour ça qu'on l'a crucifié. Qui a tué Jésus? Ce sont des politiciens. D'accord? Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet qu'on ne traite pas suffisamment dans l'église et qu'on a peur de traiter et qui gangrène l'église, c'est le sexe. Dis avec moi le sexe. On va rentrer cette année dans une dynamique d'enseignement aussi sur le sujet. Je vais t'emmener dans les choses. Je vais dire, tu vas l'appeler tous tes collègues de classe et de travail. Tu dis, venez écouter ça. Et je vais t'emmener aussi dans le mystère de l'iniquité et du péché. Parce que la Bible nous parle aussi du mystère de l'iniquité. Et la Bible nous parle aussi du mystère du péché. Son que Paul utilise. Quand on va rentrer dans le mystère de l'iniquité, je t'assure, si tu as encore un truc qui n'est pas encore en règle, tu vas venir régler ça ici devant le Seigneur. Ceux qui ne sont pas encore en règle ou bien qui se disent, je ne sais pas comment je vais faire pour sortir de cette situation, tu vas sortir de là vite. Tu vas aller voir ton petit copain et puis tu vas dire, ça là, faut plus jouer avec ça ou moi j'arrête mon histoire là avec toi. Ah! Je suis en train de vous préparer un enseignement que j'ai intitulé « La réalité de l'enfer ». C'est-à-dire, ça là, quand je vais t'emmener, je vais revêtir la casquette de l'évangéliste. Ça là, quand tu vas juste voir l'enfer en train de brûler devant toi et puis tu vas sortir de tes bêtises. Et moi, je veux vous emmener dans la parole. Et vous allez voir qu'il y a une pureté et une sainteté qui va s'installer dans vos vies. Parce que tout simplement, la crainte de Dieu va s'asseoir en vous quand vous allez écouter l'enseignement sur le mystère de l'iniquité. Et quand une petite va venir te tourner les yeux à l'école ou au boulot, tu vas dire, le mystère du sexe, de l'iniquité, je touche pas. Je me préserve pour le Seigneur, pour mon mariage. Alléluia. Et le troisième sujet, c'est le sujet de l'argent. Ce sujet est extrêmement important. Si on ne parle pas d'argent, comment veux-tu que les gens accèdent à l'intelligence financière? Et vous allez comprendre pourquoi je parle d'intelligence financière. Ce n'est pas moi qui en parle même, c'est la Bible. Le texte que nous venons de lire de Jésus, cette parabole est une parabole très intéressante. C'est sa parabole la plus connue au sujet de l'argent. Quand il parle de la parabole des talents ou encore de la parabole des mines. Et ici, on a affaire à trois personnes. Les deux premières personnes ont pris l'argent que Jésus-Christ leur a donné. Et la Bible utilise un terme bien spécifique. Ils sont partis faire fructifier ça. Ils ont fait fructifier l'argent que le Seigneur avait mis entre leurs mains. Ils ont tous reçu le même montant et ils n'ont pas tous récolté le même montant. Et l'histoire devient intéressante partir de la troisième personne, quand cette personne vient simplement dire au Seigneur qu'il a pris l'argent et il est parti le garder, l'enterrer dans un linge. Non, il l'a mis dans un linge et il l'a enterré. Il l'a caché, il l'a protégé, il l'a gardé précieusement, pensant faire plaisir à son roi. Et le roi l'a traité de méchant serviteur, mauvais serviteur, parce que tout simplement, il n'avait pas pris cet argent pour le faire fructifier. Il devait être très, très surpris de l'attitude de son roi. Parce que lui, il pensait bien faire. Et beaucoup d'entre nous dans l'église, on est dans la même situation. On pense bien faire en protégeant et en gardant notre argent. Protéger notre argent est une étape du processus divin que nous sommes en train de voir depuis plusieurs semaines. Je remets l'image au mur. Voilà. Ceux qui viennent pour la première fois, nous sommes en train d'enseigner sur ce schéma. La première partie du processus divin de création de richesse consiste à protéger notre argent par le biais de nos dîmes pour l'aspect spirituel et par le biais de l'épargne pour l'aspect naturel. Et nous sommes sur le deuxième compartiment, cinq piliers du processus divin d'une bonne gestion financière dans la vie. La semaine dernière, nous avons parlé de la semence et j'ai insisté sur la semence sacrificielle. Et la deuxième partie du compartiment, c'est l'investissement. Alléluia. L'investissement est le deuxième volet de ce processus de création de richesse. Il est extrêmement important. Et le troisième volet, bien entendu, c'est la dépense. Pourquoi ? Parce que dans le royaume, premièrement, on ne dépense pas dans le royaume, on dépense que sur la terre. Car dans le royaume, tout est à nous. Et ce processus divin, il faut le comprendre. Et là, je vais insister sur l'investissement parce que l'investissement occupe une place très importante dans la vie. L'investissement est une saison dans la vie. Il y a une saison dans la vie où tu commences à gagner de l'argent. Tu travailles, tu commences à faire rentrer de l'argent dans ton portefeuille. Et cette saison est très importante parce que c'est dans cette saison-là que tu dois apprendre maintenant à bien gérer ton argent. Parce qu'après cette saison, tu vas rentrer dans une saison où tu ne pourras plus travailler. Beaucoup de gens ont passé la saison de récolte et n'ont pas su faire fructifier leur argent. Ils se retrouvent dans la saison des vieux jours et ne savent pas comment maintenant gérer leur vie. Parce qu'au temps où ils étaient jeunes, qu'ils ont eu de l'argent, ils n'ont pas su comment le faire fructifier. Voici la différence entre le riche et le pauvre. Et aujourd'hui, je vais beaucoup insister sur les riches et le pauvre. Alléluia. Amen. Donc, cette troisième personne qui a pris son argent et qui est allée le cacher, le Seigneur nous montre que cette troisième personne avait une mauvaise mentalité. Une très mauvaise mentalité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une autre version de la Bible, une autre version de la Bible nous dit, allez et faites des affaires avec cet argent que je vous ai donné. La version français courant. Allez, faites des affaires avec. Plus loin, il dit au mauvais serviteur, pourquoi n'as-tu pas pris mon argent? Ne l'as-tu pas placé dans une banque? Dis avec moi, placé. Donc le mot placé vient du mot placement. Le mot placé vient du mot placement. C'est très étonnant d'entendre Jésus-Christ parler de placement et il dit dans une banque. Donc c'est très intéressant d'entendre Jésus-Christ parler de placement financier. Donc, tu sais, quand tu veux comprendre les mystères du royaume, il faut écouter, il faut lire attentivement les paraboles de Jésus. Parce que les paraboles de Jésus sont des petites histoires qui t'expliquent les vérités cachées du royaume. Et ce que nous devons chercher, ce sont les vérités cachées du royaume. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas lire la Bible bêtement. Il ne faut pas lire la Bible comme un religieux. Il faut lire la Bible comme un fils qui est en train d'écouter les paroles de son père avec beaucoup d'attention. Et quand Jésus-Christ donne des paraboles, ces paraboles nous révèlent des choses profondes, cachées. Et la parabole des mines, la parabole des talents est très importante. Pourquoi? Parce que tout simplement, au travers de cette parabole, le Seigneur nous enseigne un principe de sagesse financière pour prospérer dans la vie. C'est assez étonnant de se rendre compte que le Seigneur dit dans ce passage, faites des affaires, allez faire fructifier mon argent. Et plus loin, pourquoi n'as-tu pas pris mon argent et ne l'as-tu pas placé dans une banque? Et d'un autre côté, retrouver les chrétiens dans l'église qui ne s'intéressent pas au placement financier, qui ne s'intéressent pas au principe de faire fructifier l'argent. Ce sont les païens qui s'intéressent à ça beaucoup plus. C'est sorti de la bouche de notre Seigneur. Donc, on doit être les personnes les mieux instruites sur le sujet. Alléluia. Ouais. Et aujourd'hui, on va insister dessus. Mais une chose est sûre, c'est que le Saint-Esprit m'a dit, tu restes d'abord dessus. Parce que ça là, C'est la sagesse. La sagesse. Dites-moi la sagesse. La sagesse, c'est très important dans la vie. Quand tu vois la vie d'une personne, tu vois si cette personne a eu la sagesse ou si elle n'a pas eu la sagesse. Si cette personne s'est amusée avec sa vie ou bien si elle a fait très attention. Amen. Dites-moi investissement. Et aujourd'hui, je vais m'intéresser à l'investissement en actifs. L'investissement est le deuxième compartiment du processus divin. Et investir dans des actifs, et je vais t'expliquer ce que c'est qu'un actif. L'investissement en actifs, très important et très puissant. C'est le chemin vers la prospérité financière dans la vie. Si tu veux prospérer financièrement, écoute cet enseignement et va le mettre en pratique. J'ai découvert avec la personne du Saint-Esprit, en fait, dans la vie, c'est extrêmement facile de devenir riche. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, c'est facile d'être riche. Il y en a, vous êtes ici. Je le déclare et je le décrète. Parce que c'est ce que je vois dans mon esprit. Avant 30 ans, vous serez riche. Avec ces enseignements-là. Avant 40 ans, ceux qui ont... vous serez riche. Car j'ai vu dans ma vie des riches de 25 ans. Parce que moi, si j'avais reçu cet enseignement à l'âge de 20 ans, je n'aurais pas fait toutes les erreurs que j'ai faites dans ma vie. Mais je bénis le Seigneur parce que je n'ai même pas 40 ans. Et je me rends grâce avec ça, mais en l'espace de 2 ans, 3 ans, je peux devenir très riche. Moi, c'est l'engagement que j'ai pris. J'ai dit, avant 40 ans, je serai riche. Je serai l'un des plus jeunes pasteurs de ce pays et sauvagement prospère. Anderebo stakata. Les gens vont dire, ah, mais comment un pasteur peut parler comme ça? C'est dans la vie, tout est une question de choix. Si tu veux, si toi ton choix c'est de parler sur la vie des autres, parle. Moi, mon choix, c'est de poursuivre là où Dieu m'a envoyé. Voilà. On se retrouvera au ciel. Mais tu sais, au ciel, hein? Tu sais, au ciel, l'accumulation de critiques n'apporte aucune récompense. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont fait de la critique un jeu, qui en ont fait tout un ministère même. Ils font des vidéos, ils écrivent des livres et ils passent leur vie à critiquer les autres. Tu sais, ça n'apporte rien. Et puis, quand tu critiques quelqu'un, bon, tu écorches un peu sa réputation. Mais bon, tu sais, si Dieu est avec lui, ça ne lui fera rien. Donc, bien aimé, juste fermez cette parenthèse, arrêtez d'écouter les critiques, arrêtez de regarder les bêtises qu'il y a sur les Facebook, arrêtez de passer du temps sur YouTube, Facebook à regarder toutes les vidéos, les bêtises que les gens racontent. Arrêtez, ce sont des agents du diable, ils servent le diable. Le diable connaît très très bien la Bible et il va utiliser la Bible pour détruire le peuple de Dieu, en particulier les serviteurs de Dieu. Au contraire, chaque fois, par exemple, moi, une fois, quelqu'un me dit, tu n'as pas vu la dernière vidéo de Georges Nama, là, qu'il a fait sur tel pasteur, tout ça. J'ai dit, non, je n'ai pas vu. Oh, mais il faut que tu ailles regarder. J'ai dit, non, je ne veux pas regarder. Pourquoi? Parce que chaque fois que je m'assois pour regarder cette vidéo, je suis en train de participer à son péché. Et puis, je le soutiens parce que à chaque fois que je regarde, ça lui rajoute une vue sur YouTube et ça m'énerve. Donc, je n'ai pas envie de lui rajouter des vues. Donc, je ne vais pas regarder sa vidéo. Donc, vous êtes là, oh, il a 100 000 vues, il faut que j'aille regarder. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? S'ils ne se repentent pas, ces gens-là, ils vont mourir mal. Parce qu'ils touchent au oint de l'Éternel. Donc, il ne faut pas les encourager en regardant leurs vidéos. Ce sont des gens qui sont extrêmement pauvres et qui finiront extrêmement pauvres, peut-être même malades, et qui vont mourir d'une mort subite s'ils ne se repentent pas rapidement. On ne souhaite pas leur mort, on souhaite leur repentance dans le Seigneur. Que Dieu les éclaire sur ce qu'il est en train de faire dans son Église. Alléluia. Dans l'église, c'est vrai, il y a aussi des loups dans la bergerie qui font tout et n'importe quoi et qui font du mal au peuple de Dieu. Ce n'est pas cela dont on est en train de parler. Il y a des gens qui sont de vrais serviteurs de Dieu, qui ont été oints par le Seigneur pour enseigner des messages bien spécifiques. Tu vas te rendre compte que quand tu fais le ministère, tout le monde n'a pas le même message. Tout le monde prêche l'évangile, mais tout le monde ne prêche pas l'évangile de la même manière. Il y en a qui vont avoir un manteau et quand ils vont te prêcher sur la sainteté, c'est leur manteau. Il y en a d'autres, ils vont avoir un manteau sur l'aspect création de richesses et financières. C'est ce que Dieu leur a donné. Même moi. Tu vois, il y en a d'autres, ça va être l'adoration ou encore le prophétique. Avec notre frère Joël Francis Tatou, lui, lui, quand je l'écoute parler, je lui dis parfois au téléphone, dis-moi, le truc que tu as enseigné sur le mystère des trois, cela réexplique-moi, parce que c'est trop profond. C'est au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il s'arrête juste là et puis t'enseigne. Je dis, ah, ça là, fort, hein? Donc, c'est très important de s'intéresser à cet aspect. Et Dieu va te faire grâce au travers de cette parole. On va rester dessus un bon moment. Avec mon investissement. Pourquoi investissement? Eh bien, Un premier constat qu'il faut faire, c'est au niveau de notre système d'éducation, c'est-à-dire quand on va à l'école. C'est l'éducation financière qui permet aux gens de traiter l'information financière et de la transformer en connaissance. Donc juste avant de prendre la route avec moi, accroche-toi, ça va aller à une vitesse très particulière aujourd'hui. Encore, dis à celui qui est près de toi, accroche-toi. Voilà, donc il faut préparer ton esprit, il faut préparer tes méninges, parce qu'aujourd'hui, tu es à l'école des disciples. Voici notre premier masterclass de disciples. Alléluia. Donc l'éducation financière est ce qui permet aux gens de comprendre l'information financière, qui leur permet ensuite de transformer cette information en connaissance. Et tu vas comprendre pourquoi je vais insister sur l'information financière. Aujourd'hui, celui qui n'a pas une bonne éducation financière, il va lutter toute sa vie, il risque de finir pauvre. Toute sa vie. Alors, la différence entre les gens qui prospèrent dans la vie et ceux qui ne prospèrent pas, c'est leur éducation financière, c'est leur mentalité. Amen. Donc celui qui n'a pas d'éducation financière ne saura pas interpréter les opportunités de la vie pour s'enrichir. Quand les opportunités vont se présenter, il ne saura pas comment les saisir parce qu'il n'est pas éduqué financièrement. Et beaucoup d'entre nous, on a souvent des opportunités qui se présentent, mais comme on est ignorant, on ne sait pas comment les attraper. C'est avec moi éducation financière. Donc l'éducation financière est très importante. L'absence d'éducation financière pousse les gens à faire des choses stupides avec leur argent ou à demander des conseils à des gens tout aussi stupides au sujet de leur argent. Il faut être bien éduqué financièrement pour prendre les bonnes décisions dans notre vie au niveau financier. Et l'absence d'éducation financière sur les bancs de nos écoles est une maladie. Nos écoles aujourd'hui, et je le dis en prenant mes responsabilités, le système éducationnel qui fabrique nos enfants à l'école est un système qui est mauvais. On envoie nos enfants dans des écoles qui fabriquent des pauvres. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, les choses essentielles pour réussir, prospérer et être heureux dans la vie ne sont pas enseignées sur le banc de l'école. Donc, on envoie nos enfants à l'école. Et les parents pensent que c'est parce que leur enfant va à l'école qu'il va prospérer et réussir dans la vie. Pauvre. Car l'école ne t'équipe pas pour réussir dans la vie. L'école t'équipe pour entrer dans la vie active. Voilà où elle s'arrête. Ensuite, c'est dans la vie active que tu es responsable toi-même de ta propre vie. Tu peux aller à l'école, avoir un bac plus 4, bac plus 5, un MBA, un doctorat et tu peux finir misérable. Combien de gens aujourd'hui remplissent notre société, ont des gros diplômes et n'arrivent pas à prospérer dans la vie? Donc la solution n'est pas d'être un Gabonais qui reste longtemps sur le banc de l'école. La solution, c'est d'aller à l'école et d'apprendre suffisamment ce qu'il faut pour commencer à travailler le plus vite possible. Car beaucoup de gens pensent que c'est parce qu'ils vont rester longtemps à l'école qu'ils vont réussir plus vite que les autres. Oh. Si vous êtes encore sur le banc de l'école ou de l'université, sortez vite. Parce que les choses sérieuses commencent dans la vie active. Allez à l'école, prenez vos diplômes, faites vos masters 1, 2, master en comptabilité, audit, tout ça là. Bon, je ne me rappelle même plus tellement ça fait longtemps que j'ai quitté. Faites tout ça là vite, mais sortez de là vite parce que vous commencerez à construire votre vie quand vous serez entré dans la vie active en ayant commencé à travailler. Alléluia. Dès que moi l'éducation financière. Comme son mot l'indique, à l'école, on ne va jamais t'apprendre le processus de création de richesse. Ça n'existe pas, des écoles comme ça. Aucune école n'enseigne la gestion financière. Les écoles enseignent les principes de gestion financière en entreprise, comptabilité, etc. Mais aucune école ne va t'enseigner toi-même à gérer ton argent. C'est pour cela que vous avez des gens qui ont fait des masters et des MBA banque finance, qui sont d'excellents conseillers financiers et qui eux-mêmes ont des luttes financières. C'est une contradiction, c'est bizarre, c'est... Le gars, il est assis derrière son bureau, il t'enseigne comment placer ton argent, mais lui-même, il n'a pas d'argent placé. C'est... Je sais pas. C'est vraiment bizarre, hein? Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Donc, savoir aller chercher l'information, ajouter à l'éducation, te permettra de trouver la connaissance. Avec moi la connaissance. Ensuite, connaissance associée à l'enseignement donnera ce que la Bible appelle l'instruction. Avec moi l'instruction. L'instruction associée à la compréhension, c'est-à-dire quand tu commences maintenant à comprendre ce que je suis en train de te raconter, amènera à devenir intelligent. Amen. Et l'intelligence, quand tu sais maintenant, quand tu as compris l'information et tu sais comment la mettre en pratique, ça s'appelle la sagesse. Dis avec moi la sagesse. Donc, tu vas comprendre une chose, c'est que l'école ne t'enseigne ni l'instruction, ni l'intelligence, ni la sagesse. L'école va t'enseigner la connaissance, c'est-à-dire l'information. L'école, c'est une banque d'informations dans laquelle tu entres. C'est pour cela que beaucoup d'entre vous, vous en avez marre d'aller à l'école. Parce que vous en avez marre de recevoir tout type d'informations et vous vous demandez, mais à quoi ça me sert ça? Moi, j'ai les cours, par exemple, de physique à l'école, ça me saoulait, les cours de physique. J'avais physique, en général, tout ce qui était un peu chiffre, physique, mathématiques. Oh là là, c'était juste... c'était une bête noire pour moi à l'école. Histoire, géographie. Qu'est-ce que j'en ai à faire de l'histoire de France ou du capitaine Tchouréré? Ben, mais l'histoire, c'est important pour te souvenir d'où nous venons. Je m'en fiche d'où nous venons. Ce qui m'intéresse, c'est là où on va. Il me faut connaître l'histoire du Gabon. Mais franchement, on s'en fiche. C'est bien. Ça peut être une matière qu'on enseigne une semaine, deux semaines. Mais trois ans, quatre ans, quoi. C'est juste biologie. Si j'ai envie de devenir médecin, ok. Les jeunes, vous vous rappelez quand vous étiez quand vous êtes sur le monde de l'école et puis tu t'enseignes alors les différents organes, les globules blancs, les globules rouges, tout ça là, Joe. J'entre dans la vie active, je me fais de l'argent et je paye un médecin, il me soigne, c'est tout. Je n'ai pas besoin de maîtriser l'anatomie humaine. Et puis on met ta vie dessus avec un contrôle, hein. C'est-à-dire au bac, si tu rates la matière de biologie, et tu sais que là, si tu rates le bac, là, c'est ta vie qui est ratée. Voilà, maintenant, en train de transpirer avec l'anatomie humaine pour te rappeler qu'ici, là, c'était le foie, et puis tu fais les dessins, tout ça. Je te dis, mais prenez-moi à faire de l'argent, c'est tout ce qui m'intéresse. J'ai envie d'aller de l'avant, moi. J'ai envie de nourrir ma famille, j'ai envie de construire des choses, voilà. Franchement. On est où avec la physique et, la biologie? Depuis que tu es sorti de là. Bon, j'avoue, les mathématiques, ça reste important quand même. Parce que tout ce qui est chiffres et logique, c'est très important. Mais franchement, le reste, bon, c'est cool une fois, c'est bien. Je critique pas les enseignants, je critique pas les matières. Mon enfant aussi va à l'école, il apprend ça aussi. Moi aussi, j'ai appris ça, il n'y a pas de problème. Mais très vite, il faut que l'enfant entre dans la vie active et qu'on commence à lui parler des choses sérieuses. C'est pour cela que, en parallèle des études de vos enfants, la véritable éducation, elle se fait à la maison. Quand vous êtes avec votre enfant, c'est là que vous lui enseignez les vrais principes de vie. L'école, c'est bien, mais à côté, à la maison, il faut passer beaucoup de temps avec votre enfant et lui apprendre des choses. C'est pour ça que quand vous allez chez les Juifs ou les Libanais, vous trouvez souvent à la caisse, c'est l'enfant qui vient vous rendre la monnaie. Parce que c'est le papa met l'enfant, pendant que le papa s'occupe des stocks derrière, c'est l'enfant qui a la caisse. Ça vous fait 3000 francs, monsieur. Et c'est lui qui compte. Et il te rend la monnaie. Tenez, c'est déjà très tôt compter l'argent. La connaissance, l'instruction, l'intelligence et la sagesse. Alléluia. Il y a trois mousquetaires dans la Bible. C'est ce que je viens d'exposer. Trois mousquetaires qui sont toujours ensemble et que tu retrouves très particulièrement dans le livre de la sagesse des Proverbes. Ces trois mousquetaires, le premier, c'est la connaissance. Et la connaissance, quand tu ouvres ta Bible, souvent a d'autres appellations. La science, l'instruction ou bien l'enseignement. Chaque fois que tu vois ces mots, la Bible est en train de te parler de connaissance. Le deuxième mousquetaire, c'est l'intelligence. Il n'est jamais très loin. D'accord? Et le troisième mousquetaire, c'est la sagesse. Ils sont toujours ensemble. Mais ce qui est intéressant avec la parole de Dieu, c'est de comprendre que la parole de Dieu ne te demande pas de chercher la connaissance. Proverbe 8, verset 33 nous dit, écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. En d'autres mots, écoutez l'information, écoutez l'enseignement. Parce qu'en fait, le chemin, le voyage vers la sagesse commence avec la connaissance. Donc, le commencement de la sagesse, c'est la connaissance. Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel ? C'est la connaissance de la parole de Dieu. Donc, les choses sérieuses commencent avec la connaissance. Mais d'où vient la connaissance ? Eh bien, la connaissance, elle est disponible en permanence autour de nous. Et tu vas comprendre pourquoi. Parce que là, je vais t'expliquer quelque chose d'important. Moi, la connaissance. La connaissance, c'est l'information. L'information, tu l'as sur le banc de l'école, quand on te le donne. L'information, tu l'as dans les journaux. L'information, tu l'as à la radio quand tu écoutes le matin. L'information, tu l'as à la télévision. L'information, tu l'as dans l'Union. L'information, tu l'as dans la Bible. Figure-toi, et c'est très étonnant, que même les non-croyants connaissent la Bible. Oh, mais vous pensez qu'il n'y a que vous qui connaissez la Bible? Les non-croyants connaissent très bien la Bible. Ils connaissent très bien la Bible. C'est pour ça que souvent, quand vous entendez un non-croyant qui te dit qu'il connaît la Bible, il te dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Là, tu réponds « C'est pas écrit dans la Bible ». Moi, je plaisante. Les non-croyants connaissent la Bible. Satan connaît très bien la Bible. Les musulmans connaissent très bien la Bible. Tout le monde connaît la Bible. C'est la connaissance, c'est l'information. Alléluia. Le problème maintenant, c'est que les choses sérieuses commencent quand tu commences à comprendre ce qui se passe. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que tout simplement, Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Je ne sais pas si j'ai parlé de ça plus loin, ça me vient à l'esprit. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. D'accord ? Ce n'est pas la connaissance qui libère, c'est la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que la vérité ? La vérité, c'est le mystère qui est caché derrière l'information qu'on nous donne. C'est ça que Dieu veut que tu comprennes. Donc, quand on parle de l'argent, le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est ce que vous avez compris, l'argent. Donc, celui qui comprend le sujet de l'argent, c'est-à-dire la vérité qui est cachée derrière l'argent, à acquérir l'intelligence financière et commencera à prospérer. Donc, même là, pendant que je vous parle, dans l'air, il y a de l'information. Si je sors un transistor par le biais d'une radio, on va capter des chaînes FM et puis vous allez voir qu'il y a de l'information dans l'air. Il faut juste se connecter à la bonne fréquence. Donc, la connaissance est partout. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une surabondance d'informations. Il y a de l'information partout. Et au bout d'un moment, on ne sait plus où aller chercher la bonne information. On est saturé d'informations. Et Dieu dit que la connaissance, l'intelligence et la sagesse sont toujours ensemble. Donc, moi, la sagesse et l'intelligence. La sagesse a une sœur jumelle. Cette sœur jumelle, c'est la richesse. Elles sont nées ensemble. Mais d'autre part, la sagesse a une meilleure copine avec qui elle est tout le temps à l'école. C'est l'intelligence. C'est sa meilleure copine. Elles font les 400 coups ensemble. C'est pour ça que quand tu ouvres la Bible, tu verras toujours la sagesse à côté de l'intelligence. Jamais Dieu a séparé les deux-là. Elles sont toujours ensemble. La connaissance parmi les trois, c'est celle qui veut toujours se greffer dans le groupe. Les autres l'aiment bien, mais bon, ils ne s'intéressent pas trop à elle. Et elle, dès qu'elle aperçoit l'intelligence et la sagesse, elle court toujours parce qu'elle veut toujours faire partie. Elle veut toujours être dans le coup. Mais le problème, c'est que les autres n'aiment pas trop rester avec elle parce qu'ils sont à un autre niveau. La connaissance, c'est la première de la classe. Elle est toujours là quand on ouvre les portes et c'est toujours la dernière à partir. Si tu arrives à l'école et que tu ouvres le portail, la connaissance est déjà là. La connaissance, tu te réveilles le matin, elle est là. Elle est devant toi au travers des livres qui sont dans ta bibliothèque. Quand tu as mis la télévision, au travers de ta Bible qui est sur ton chevet. La connaissance est partout. Et Dieu dit, accède à la connaissance pour commencer à régler tes problèmes. Notre problème, c'est que nous faisons le choix de ne pas aller chercher la connaissance. Ne serait-ce qu'en lisant des livres, par exemple, beaucoup d'entre nous, on n'aime pas lire. Les secrets de la vie se trouvent dans les livres. Alléluia. Et ces trois-là, ils sont très importants à saisir. Amen. L'argent. Pour revenir à notre bien-aimé, l'argent. L'argent, je tiens à clarifier ce point. L'argent ne te rendra pas riche. Ah, là, je commence à rentrer dans l'enseignement. Ah. L'argent ne te rendra pas riche. Dis avec moi, l'argent ne me rendra pas riche. Tu vas comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que travailler dur pour avoir plus d'argent ne te rendra pas riche dans la vie. Ça, c'est un. Deux, gagner subitement beaucoup d'argent au PMG ou à la loterie ne te rendra pas non plus riche. Oh pasteur, si je gagne 10 millions au PMUG, là, c'est pas la richesse. Non, tu es encore plus pauvre qu'avant. Tu as juste gagné beaucoup de billets, c'est tout. Tu n'es pas riche. L'argent n'existe pas. Celui qui le cherche ne le trouvera jamais. Avec moi, l'argent n'existe pas. Le riche sait que l'argent n'existe pas. Le pauvre croit que l'argent existe. C'est pour ça qu'il le poursuit et ne l'atteint jamais. Le riche, il est éclairé. Il ne poursuit pas quelque chose qui n'existe pas. L'argent n'existe pas. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tout simplement, rechercher l'argent ne te conduira qu'à plus d'angoisse. Et Dieu nous dit dans la Bible que l'argent n'existe pas. Et je vais te montrer où. La monnaie que nous avons dans nos poches, le CFA, la monnaie n'est pas l'argent. Elle n'est que la devise qui nous permet de faire des transactions financières. Quand tu changes de pays, si tu vas en RDC, c'est le dollar. Si tu vas en France, c'est l'euro. Si tu vas aux États-Unis, c'est le dollar américain ou le dollar canadien à côté. Tout cela, ce ne sont que des devises. Et le problème avec les gens, c'est qu'ils confondent les devises et l'argent. La devise, c'est juste la monnaie qui te permet de pouvoir faire tes transactions. Mais l'argent est invisible. L'argent n'existe pas. C'est ce que les riches ont compris. C'est pour cela que les riches prennent plaisir au jeu de l'argent. Parce qu'en fait, l'argent n'existe pas. Le pauvre se trouve dans un bureau et il voit beaucoup de billets. Et il vole tous ses billets et va les cacher sous son matelas et dit « Je suis riche ». Non, tu n'as pas volé la richesse, tu as volé de la monnaie. Et tu vas finir en tôle. Ça a commencé dans notre pays là, on a commencé à mettre en tôle déjà. J'ai commencé à regarder les informations cette semaine et je lisais des choses et fait yeah. Ça, vraiment, je l'ai plein. Donc, l'argent n'existe pas. Regarde ce que nous dit la Bible. Regarde bien cette photo. Tu vois cette photo? Est-ce que tu vois cette photo? Bien, regarde ce que tu dis la Bible. Salomon nous dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir au Proverbe 23, 4. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence, voyons. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Si tu poursuis l'argent, tu ne l'attraperas jamais. Parce qu'on ne poursuit pas l'argent. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas. Celui qui poursuit l'argent, celui qui poursuit la richesse, finira voleur. Voire en prison, voire mort. Parce qu'il termine en disant, il prend son vol vers les cieux. Si tu poursuis l'argent qui s'envole, c'est un ange de la mort qui va t'emmener au ciel. La Bible française courant dit, ne te fatigue pas à courir après la richesse. Cesse même d'y penser. L'argent disparaît avant qu'on ait eu le temps de bien le voir. On dirait qu'il se fabrique des ailes pour s'envoler au loin, comme un aigle dans le ciel. Je suis en train de rassurer quelqu'un. Parce qu'il y a quelqu'un qui commence à dire, ah, mais donc une histoire là, qu'on écoute depuis cette semaine-là, c'est-à-dire qu'il faut qu'on poursuive la richesse. Non, poursuive pas la richesse. La richesse se fait des ailes. Celui qui est sage et intelligent ne court pas après l'argent. Et tu vas comprendre aussi pourquoi. Ecclésiaste chapitre 5 au verset 10 nous dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Paul a rajouté, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Il ne faut pas aimer l'argent. Il ne faut pas poursuivre l'argent. Les vrais riches ne sont pas attachés à l'argent. Les vrais riches sont amoureux de l'intelligence financière. Et c'est là que la vie devient agréable. Quand tu vois comment tu es vraiment très intelligent pour créer de l'argent. C'est ça le kiff en fait. Donc l'argent ne te rendra pas riche. Pourquoi? Parce qu'en fait, et là je vais commencer à parler de ce qui est la véritable richesse selon Dieu. Pourquoi je dis la véritable richesse? Parce que les gens pensent que la vraie richesse, c'est l'accumulation de l'argent. Ce qui est complètement faux. La véritable richesse n'est pas dans l'accumulation de l'argent sous forme de monnaie. Avoir beaucoup de billets dans son compte bancaire, ce n'est pas ça, être riche. La véritable richesse, ce n'est pas l'accumulation de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on peut perdre beaucoup d'argent en investissant dans la monnaie. Car le jeu de l'argent change sans cesse. En bourse, d'évaluation financière, les cours du marché, les valeurs immobilières, toutes ces choses-là n'ont jamais la même valeur tous les jours. Vous me suivez? dit accroche-toi, on commence à aller un peu plus vite. Donc, quand tu vas voir un trader dans une salle de marché, c'est le premier à te dire, mais mon frère, l'argent n'existe pas. Informatique ici, un jour, ça vaut. Hein? Le lendemain, à la même heure, ça vaut autre chose. Quand vous ouvrez l'Union tous les matins, il y a un petit endroit au milieu de l'Union où on vous donne le cours de devise, le cours du CFA, le cours de l'euro, le cours du dollar. Un jour, le dollar vaut 500 francs, le lendemain, il vaut 550 francs, le lendemain, il vaut 567 francs, et le surlendemain, il vaut à nouveau 500 francs. Quand tu viens changer l'argent à la banque, un jour, ils vont te rendre l'équivalent de, je sais pas moi, de quelques billets, et le lendemain, ils te rendent moins. Et tu dis, mais hier, je suis venu changer le même montant, vous m'avez donné plus. Monsieur, le cours a changé. De quoi? Le cours a changé. Tu comprends rien. Bon, allez, retourne à l'école. D'accord? Donc, l'argent, ce n'est pas la monnaie. C'est la monnaie qui varie. D'accord? C'est la monnaie qui varie. Là, en ce moment, on est en train de parler de la dévaluation du franc CFA à nouveau. C'est en discussion en ce moment. Et c'est un sujet très sensible parce que si on dévalue encore le franc CFA, ça va augmenter encore les problèmes de l'Afrique. Quand vous allez aux États-Unis, le dollar est fort. Il fut un temps, par exemple, où le dollar avait été tellement dévalué en Afrique. Là, à côté, en RDC, avoir 1 million de dollars, c'était comme avoir 10 000 francs ici. Vrai? Les gens allaient acheter à manger avec des brouettes de billets. C'est ridicule, hein? Ils ont vécu ça en RDC. C'est-à-dire, tu vois des centaines et des centaines de billets chez toi, tu as l'impression d'être très riche, ça ne vaut rien. Parce que tout simplement, la monnaie que tu as en face de toi avait été fortement dévaluée. Alléluia. La véritable richesse n'est pas dans la monnaie, dans la valeur des actifs qu'il nous procure. Et en fait, c'est ça que le riche a compris. La véritable richesse n'est pas dans les actifs qu'on possède seulement, mais dans l'information financière relative à ces actifs. En d'autres mots, ce qui compte, c'est ce que ça vaut. D'accord? Si je prends ce pupitre, ici, à Libreville, il vaut peut-être 300 000 francs. Okay? Si je vais en France, le même pupitre vaut peut-être juste 100 euros. 65 000 francs. Change, tu vas d'un pays à un autre, le même objet n'a pas la même valeur. Parce que le cours du marché est différent. Vous suivez? Donc, la véritable richesse se trouve dans les biens que l'on possède. C'est pour cela que c'est important, et c'est ce que le riche a fait, c'est important de comprendre la valeur des actifs. C'est ce que le riche poursuit. Alléluia. Dis avec moi la véritable richesse. Jean 8, 32, et c'est ce que j'ai commencé à expliquer tout à l'heure, Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Salomon rajoute ceci dans le Proverbe 23, verset 23. Acquiert quoi? La vérité et ne la vend pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Trois mousquetaires. Ils sont toujours ensemble, je t'ai dit, non? Salomon te dit, acquiert la vérité. En d'autres mots, acquiert, comprend l'information cachée derrière ce qu'on appelle l'argent. De sorte que, regarde, même un enfant, si je mets en face de toi une voiture, si je mets en face de toi cette chaise, ils n'ont pas la même valeur. Et si je te demande, choisis entre les deux, tu vas dire, je prends la voiture. Pourquoi? Parce que tu connais la valeur de la voiture. D'accord? Le problème avec beaucoup d'entre nous, c'est qu'on ne connaît pas la valeur entre les biens. C'est pour cela qu'on prend notre argent et on l'investit au mauvais endroit. Parce qu'on ne connaît pas la valeur. De même, on ne connaît pas la valeur des billets qu'on a dans nos poches. C'est pour cela que, comme des enfants, dès qu'on a de l'argent, on le dépense. Parce qu'on ne connaît pas la valeur de ce que nous avons entre les mains pour mieux l'investir ensuite. Si tu connaissais la valeur de l'argent que tu recevais chaque mois, il y a des choix que tu ne ferais pas. Parce que quand tu comprends que la valeur de l'argent que tu reçois va déterminer ton avenir, même aller t'occuper d'un frère, d'un frangin, d'une tantine, tu vas réfléchir à deux fois. Parce que il y a des choix parfois, humainement parlant, ils ont l'air bien, d'accord? Mais en termes de destinée, tu vas faire ces choix. Parce que tu risques d'hypothéquer ta vie à force de mal gérer ton argent. Alléluia. Acquiert la vérité, ça veut dire acquiert l'information qui est cachée derrière. L'information financière de ce qui se passe autour de toi. C'est ça la différence entre le riche et le pauvre. C'est que lui, il a compris ce que le pauvre n'a pas compris. Alléluia. Dis avec moi la véritable richesse. Ça, c'est ta future maison au nom de Jésus. C'est l'information financière relative à ses actifs qui rend une personne riche ou pauvre. Car tu peux posséder des biens, si tu ne sais pas ce qu'ils valent, tu ne sauras pas comment faire fructifier ça. Ce n'est pas l'immobilier, les placements financiers ou la quantité d'argent en banque qui font qu'une personne est riche. Pourquoi? Non, c'est la valeur financière de tes actifs sur le marché qui va déterminer ta richesse ou ta pauvreté. C'est la valeur de ce que tu possèdes. C'est pour cela que les riches n'ont pas beaucoup d'argent physiquement. Leur richesse se trouve dans la valeur de leurs actifs. On calcule, on estime la valeur de leurs actifs et on peut déterminer leur richesse. C'est pour ça qu'un jour, il y a eu une magnifique publicité de Coca-Cola avec Bill Gates. Et puis on voit Bill Gates qui quitte son bureau à l'étage et qui descend au rez-de-chaussée où il y a tous les employés. Et quand il arrive au rez-de-chaussée, il a soif. Il veut se prendre une canette de Coca. Et il arrive devant le distributeur. Et là, il est là, il fouille et puis il n'a pas de pièce. Et il se tourne devant tous les employés et puis fait, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui peut me prêter une pièce de 1 cent. Et tout le monde le regarde genre, franchement, t'es Bill Gates, t'as même pas une pièce sur toi. Parce qu'en fait, la véritable richesse, l'argent, ce n'est pas la monnaie. La richesse est invisible. Quand tu te lèves et tu dis par exemple, je vais faire un virement bancaire, est-ce que tu as touché cet argent? Est-ce que tu l'as vu? Ce sont juste des chiffres sur un écran. C'est tout. C'est comme ça qu'il y a des gens qui étaient immensément riches virtuellement. Et quand il y a eu les attentats du World Trade Center aux États-Unis à New York et que les deux tours jumelles ont été effondrées, du jour au lendemain, des milliardaires américains sont devenus pauvres. Parce que le cours de la bourse a chuté d'un coup, ce qui veut dire que la valeur de leurs actions dans les entreprises qu'ils possédaient avait chuté totalement et du jour au lendemain, ils sont devenus pauvres. Vous me suivez ou pas? Donc, c'est la valeur financière de ce que tu possèdes, de tes actifs, qui va déterminer ta richesse. C'est pour cela que je vais insister là-dessus. Quel est notre premier actif? Notre premier actif, c'est ce qu'on a dans la caboche. C'est notre esprit. C'est pour cela que la Bible insiste sur l'esprit. Parce que celui qui développe son esprit, développe son intelligence financière. L'esprit est notre actif le plus précieux pour acquérir la richesse. Et c'est ce qui fait la différence entre le riche et le pauvre. C'est que le pauvre se soucie de la monnaie. Il veut avoir de la monnaie dans sa poche. Donne-moi 100 francs, donne-moi 100 francs. Le riche, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Le riche, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il a dans la tête. Parce que c'est sa tête qui lui permet de s'enrichir. Notre actif le plus précieux, c'est notre esprit. Et plus tu investis en connaissance dans ton esprit, plus tu deviens intelligent et sage. Et dans le royaume de Dieu, on ne poursuit pas l'argent. On poursuit l'intelligence et la sagesse divine qui te feront prospérer. Parce que la sagesse, ce n'est pas chercher à avoir beaucoup d'argent. La sagesse, c'est chercher à développer notre intelligence pour pouvoir créer de la richesse qui nous permettra d'acquérir encore plus d'actifs qui ont de la valeur. Alléluia. Donc, devenir intelligent financièrement pour acquérir plusieurs actifs, c'est ça la priorité. C'est ça notre priorité. C'est ça que tu dois poursuivre. Pas la monnaie, avec mon investissement. Esprit, qui est notre premier actif. Regarde ce que la Bible nous dit dans Proverbes, chapitre 4, au verset 5. Acquiert la sagesse et l'intelligence. Et ne les oublie plus. Ne néglige aucune parole de ma bouche. Ne délaisse pas la sagesse et elle t'aidera. Aime-la et elle veillera sur toi pour devenir sage. Commence par acquérir la sagesse. Donne tout ce que tu possèdes pour acquérir l'intelligence, Anyambie. Serre la sagesse contre toi. Elle te rendra grand et noble. Si tu l'enlaces, elle sera pour toi comme une parure gracieuse, comme une couronne magnifique. Pourquoi est-ce qu'on lit ce genre de choses tous les jours et on cherche pas la sagesse? On est maboule ou quoi? Dieu nous dit, hey, tout ce que tu possèdes, ton argent, tes biens, tes gosses, ta femme, tout, tu donnes ça pour acquérir la sagesse. C'est une métaphore. Hein? Dieu dit, tout ce que tu possèdes, investis-le dans la sagesse. Parce que celui qui devient intelligent dans la vie, il ne peut pas échouer. C'est pour cela que quand vous écoutez cette parole-là, si vous saisissez ça, vous ne pouvez pas finir mal dans la vie. Pas possible. Pas possible. Alléluia. Acquérir la sagesse et l'intelligence. Pourquoi? Parce que ton premier actif, c'est ta mentalité, c'est ta manière de penser. Et la différence entre le riche et le pauvre, c'est leur manière de penser, leur manière de voir le monde autour d'eux, leur perception des événements. Alors que tout le monde voit au Gabon crise, il y en a, je vous dis, en ce moment, ils sont en train de se faire sérieusement de l'argent. Parce que, en fait, quand vous, vous voyez crise, il y en a, eux, ils voient opportunité. Avec moi, crise. C'est au travers des crises que sortent les plus belles choses. Aucun pays n'est devenu grand sans passer par une crise. C'est pour ça que les gens sont en train de pleurer, la crise au Gabon, crise économique, crise sociale, crise politique. Etc. Je dis, c'est bon. C'est comme ça que les gens vont comprendre et le pays va changer. C'est pas en rêvant tous les jours que les choses vont changer. C'est quand on prend l'orange et qu'on la presse fort que le jus sort. Donc la crise n'est pas toujours négative. Ça fait mal, certes, mais c'est bon. Quand tu vas chez le médecin, parfois quand il t'ausculte, ça fait mal, mais c'est pour te soigner. Donc la crise n'est pas toujours négative. Elle a des effets négatifs et des conséquences douloureuses aussi. Mais la crise sort toujours de bonnes choses. C'est pour cela que la Bible nous montre dans le livre des Juges, Samson, qui rencontre un lion, se bat avec le lion. Et quand il a tué le lion, quand il ouvre le lion en deux, il trouve du miel. Et il commence à manger le bon miel. Et là, il sort cette énigme-là aux Philistins en disant, « De celui qui mange est sorti ce qu'on mange. » Et la suite, c'est quoi? Vous ne connaissez pas votre Bible. De celui qui mange est sorti ce qu'on mange. Et du fort est sorti ce qui est doux, miel. D'accord? C'est au travers d'une crise que Samson a rencontré qu'il a pu découvrir ce qui était bon. Donc, c'est au travers des événements qui nous entourent que parfois on comprend que l'important, en fait, c'est notre manière de penser. Et notre problème au Gabon, c'est notre manière de penser. Notre problème au Gabon, je le redis encore, ce n'est pas la politique. Avec moi, le problème, ce n'est pas la politique. Ce n'est pas la politique. Notre problème à nous, les Gabonais, c'est comment on pense, notre mentalité. C'est ça qu'il faut changer. Maintenant, pour finir mon enseignement d'aujourd'hui, je vais te poser trois questions. La première question, c'est qu'est-ce que l'intelligence financière, en fait? Exactement. Le pasteur parle depuis tout à l'heure d'intelligence financière, mais en fait, c'est quoi? Il faut que je comprenne les maths, tout ça? Non. L'intelligence financière, dis avec moi intelligence financière. L'intelligence financière, un, c'est la capacité à gagner et à garder son argent. Ça, c'est un. Deux, l'intelligence financière, c'est la capacité à faire fructifier son argent. Trois, l'intelligence financière, c'est la capacité à résoudre les problèmes d'argent. Tu vois comment, pourquoi je dis ça? Parce que savoir comment résoudre les problèmes d'argent te rend encore plus intelligent financièrement. Le pauvre et le riche ont tous deux des problèmes financiers dans leur vie. Mais tous deux ne perçoivent pas le problème de la même manière. Le riche voit dans le problème une crise financière qui va encore le faire plus souffrir. Plutôt, le pauvre voit dans ses problèmes financiers une crise qui va encore le faire plus souffrir. Mais le riche voit dans la crise financière une opportunité de devenir encore plus intelligent. C'est pour cela que le pauvre, quand il voit des problèmes, il pleure. Le riche, quand il voit des problèmes, il se frotte les mains. Quand on dit crise au pays, il y en a, ils se frottent les mains en disant « Alléluia, on va se faire encore beaucoup d'argent sur leur dos. » C'est une drôle de manière de voir le monde. Hein. Et malheureusement, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, le monde. C'est comme ça. Résoudre les problèmes. Pauvre ou riche, tu choisis quel camp? Tu choisis de penser comment entre les deux? Hein? Tu choisis riche. Mais pourtant, beaucoup choisissent d'être pauvre dans leur manière de se comporter. Regarde ce que la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 22, verset 2. Le riche et le pauvre ont ceci de commun. Le Seigneur a fait l'un aussi bien que l'autre. Ils ont ceci en commun. C'est Dieu qui a fait, mais ils ne pensent pas de la même manière. Au verset 7 du même Proverbe 22, la Bible dit encore autre chose très intéressante. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Moi, quand je lis ça, je dis, Seigneur, je n'ai pas envie d'être pauvre. Je n'ai pas envie d'être dominé par qui que ce soit dans ma vie. Pourtant, la Bible nous dit que dans le monde dans lequel nous vivons, ce sont les riches qui dominent sur les pauvres. Dominer, ça ne veut pas toujours dire qu'ils les oppressent. Mais ça veut aussi dire qu'ils contrôlent leur vie. Le riche et le pauvre, c'est Dieu qui les a faits, mais ils ne pensent pas de la même manière. Pourquoi? Bien, parce que la différence entre le riche et le pauvre, c'est leur intelligence financière. Ça, c'est un. Deux, le problème du pauvre, Dis avec moi le pauvre. Ce n'est pas le manque d'argent, son intelligence financière pour résoudre ses problèmes d'argent. Quand un pauvre demande de l'argent, tu ne l'aides pas en donnant de l'argent. Tu l'aiderais à changer sa manière de penser et savoir comment résoudre ses problèmes d'argent. Le riche, lui, par contre, il sait comment résoudre ses problèmes d'argent et comment en gagner davantage. Le pauvre, lui, est ignorant et son ignorance l'enfonce davantage dans les problèmes d'argent. C'est pour cela que le riche, il poursuit la connaissance. Il ne veut pas être ignorant. Dans le processus divin de création des richesses qu'on est en train de voir, l'investissement en actif demande d'avoir une bonne intelligence financière au risque de ne pas savoir comment faire fructifier son argent pour finir encore plus pauvre. Si tu es ignorant dans la vie et que tu ne sais pas comment faire fructifier ton argent, demain, grâce au travail que tu vas avoir, tu vas gagner de l'argent, tu auras ce qu'on appelle un salaire. Le salaire, c'est le commencement de la vie. C'est pour cela que je me résigne à dire que le salaire, ce n'est pas fait pour toute la vie. Le travail, travailler en tant qu'employé dans une entreprise, c'est un temps. Mais il y a une autre saison dans la vie où, avec l'argent que tu gagnes, tu dois commencer à le faire fructifier pour avoir d'autres sources de revenus. Alléluia. Donc, Dieu te permet de commencer par un emploi pour que tu commences à avoir une première manne financière qui va t'aider à investir devant. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons cette manne financière et on la garde pour toute la vie. Quand la retraite arrive, on dit voilà, notre employeur est mauvais, il ne nous a pas bien préparé notre retraite. Non, c'est toi qui es responsable. C'est avec ton argent que tu fais fructifier, quand tu es encore en forme, que tu prépares ton avenir. Donc, vous êtes là aujourd'hui, vous travaillez, ou vous avez des activités qui vous rapportent de temps en temps de l'argent. Même si c'est un billet de 10 000 francs que tu fais rentrer, 10 000 francs là, gère ça bien. C'est la différence entre le riche et le pauvre. Avec moi, le riche et le pauvre. Le pauvre, lui, il fuit les problèmes d'argent. Le riche, il cherche à résoudre ses problèmes d'argent. Le pauvre, il se plaint sans cesse de son manque d'argent. Le riche, il développe sans cesse son intelligence financière pour gagner davantage d'argent et l'investir dans des actifs. Je me suis. Si tu me suis, fais comme ça. Le pauvre, il souffre parce qu'il ne sait pas comment résoudre ses problèmes financiers. Le riche, il identifie ses problèmes et il étudie les mécanismes financiers pour résoudre ses problèmes et gagner encore plus d'argent. Donc en fait, j'ai fait mon constat, notre problème au Gabon, et c'est pour cela que je crois que Dieu m'a suscité et Dieu a suscité aussi d'autres personnes et Dieu a suscité aussi ta vie, cette église. C'est parce que Dieu dit la société, là, il y a trop de pauvres. Il faut maintenant des gens qui vont venir et qui vont changer la donne. Dans notre pays, il y a trop de pauvres. Gabon, il y a trop de pauvres. La pauvreté, c'est quoi? Tu penses que la pauvreté, c'est vivre dans des bas quartiers, dans des maisons en planches, etc. Non, c'est pas ça la pauvreté. Ça, ce n'est que la condition, ce n'est que la conséquence d'une certaine pauvreté. Tu veux savoir si tu es pauvre? Je vais te choquer, hein. Prépare-toi, ça va arriver. Tu veux savoir si tu es pauvre? Si tu veux savoir si tu es pauvre, regarde combien de temps tu peux vivre sans ton salaire. Si tu n'arrives pas à vivre sans ton salaire 3 mois, tu es pauvre. Imagine qu'on te coupe ton salaire 3 mois et que tu n'arrives pas à vivre. Tu es pauvre. C'est ça la définition de la pauvreté. Oh, pasteur, mon petit salaire là de 400, 500 000 francs là que je gagne, là, si on te coupe ça, est-ce que tu peux vivre? Non, là c'est chaud. Je ne peux pas payer mon loyer, je ne peux rien faire, je ne peux pas faire ci. Tu es pauvre. Aujourd'hui, je t'apprends que tu es pauvre. Donc, il faut que tu sortes de là. Comment? En acquérant l'intelligence financière. Celui qui vit dans la maison en planche et qui n'a même pas un franc en poche, lui, il n'est même pas pauvre. Il est à terre. C'est... D'accord? C'est celui qui n'a rien. Celui qui n'a vraiment rien, qui ne peut même pas se payer un peu une bouteille d'eau en ZA 500. Il est à terre. Donc lui, il est dans une condition où, tu vois, c'est la condition où quand tu as mal quelque part, tu vois, non? Et puis, au bout d'un moment, la douleur atteint un niveau où tu ne sens plus rien. Tu vois, non? C'est-à-dire, tu ne sens plus rien. Il y a des gens, par exemple, c'est comme par exemple, tu vois souvent dans les films, les gens, ils sont en train de faire la guerre, et puis, il y a une balle qui l'a touché, boum! Et puis, il continue à se battre. Et puis, il est en train de parler avec tout le monde. Et tout le monde dit, mais tu es blessé? Il fait, comment ça, je suis blessé? Oh, je ne savais pas, je suis blessé. Et c'est quand il constate qu'il est blessé que là, il fait, oh, ça fait mal. Parce qu'on a identifié sa blessure. Mais il ne savait pas, en fait, qu'il était blessé. Et bien, il y a des gens qui sont dans des conditions où ils sont tellement pauvres qu'au bout d'un moment, ça ne leur fait plus rien. C'est-à-dire, ils ont accepté la fatalité, puis ils restent pauvres. Mais il y en a d'autres, ils sont encore réveillés. Ça, c'est vous. Vous êtes encore dans la capacité d'écouter et de recevoir. Je suis un peu dur, là. Je suis en train d'opérer, là. Pistolet, spatule. Donc, le pauvre, il ne sait pas comment résoudre ses problèmes. Le riche, il sait comment. Dès que moi, pauvre ou riche. Le pauvre ne sait pas comment garder et protéger son argent. Le riche, il sait comment sécuriser son argent dans ses actifs. Le pauvre croit que l'argent se trouve dans la quantité de monnaie qu'il possède en banque. Le riche sait que l'argent se trouve dans la valeur des actifs qu'il possède et surtout pas en banque. Où les pauvres vont sécuriser leur argent? Dans les banques. Les riches, ils mettent pas leur argent dans les banques. Ils mettent le strict minimum pour pouvoir vivre au quotidien. Et leur argent, ils ne cachent pas ça dans les banques. S'il y a bien des gens qui volent l'argent des gens, c'est les banquiers. Je sais de quoi je parle, j'ai été banquier. J'étais banquier. Et discours pour les pauvres, c'est prenez votre argent, votre épargne, et venez ouvrir des comptes d'épargne chez nous. Quand vous prenez votre argent et que vous allez mettre ça dans les banques, vous sortez de là en vous frottant les mains, j'ai sécurisé mon argent. Oh. Tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens de leur donner ton argent pour que eux... Regarde bien ce que je vais te dire là, tu vas comprendre le système. Quand tu prends un compte épargne dans une banque de la place, c'est comme ça que le banquier devient riche. Tu prends ton argent, tu lui donnes et puis lui, il te promet en retour 3-4%. D'accord? Ou 3% ou 2%. Il est content et il te promet ça sur un an, sur l'année, quand tu allais prendre des assurances vie, tout ça là. Promettez aux gens, oh 4%, nanana, achetez des obligations, 5%, oh là là, c'est un gros montant, tout ça, ok. Tu leur donnes l'argent, vous allez tous mettre votre argent chez eux. Le banquier prend votre argent, il va donner ça aux entreprises et il leur prête ça à un taux d'intérêt de 10%. D'accord? L'entreprise lui rembourse. Quand l'entreprise lui rembourse, parce que les entreprises prennent des crédits auprès des banques, quand l'entreprise rembourse avec des intérêts de 10%, lui, il te rend tes 3% et lui, il récupère les 7%. Et puis, quand il te rend les 3%, il te dit, vous avez gagné beaucoup d'argent. Hein? Mais toi, tu sais pas que derrière, il a prêté ça aux sociétés et on lui a remboursé ça avec un taux d'intérêt de 10%. Et il a récupéré 7%. Et l'argent de qui il a utilisé? Ton argent. C'est comme ça que les banquiers s'enrichissent. Les riches ne vont pas mettre leur argent dans les banques parce qu'ils savent que les banquiers utilisent leur argent. Et les riches, parce qu'ils ont compris ce jeu de l'argent-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des banques. Donc, fils de Dieu, fils du royaume, église de Christ, où est-ce que vous allez mettre votre argent? Dans leur banque. Dieu vous dit, arrêtez de mettre votre argent dans leur banque. Créez votre banque. C'est pour cela que quand le Saint-Esprit m'expliquait ça à 3h du matin, j'étais là, j'ai dit, hi. Et Dieu me dit, tu vas créer ta banque, mon fils. J'ai dit, oh. Je vais créer ma banque. J'ai dit, Dieu, accorde-moi la grâce avec ton peuple de prospérer et on va créer notre banque. Ah oui, on va créer notre banque. Et les gens, quand ils entendent banque, ils se disent, c'est un petit truc, c'est trop compliqué à créer. C'est pour les élites de la nation, tout ça, tout ça. Dieu, c'est facile de créer une banque. Tu sais tout ce qu'il faut pour créer une banque? Il faut de la liquidité, c'est tout, de l'argent. la liquidité. Demain, Dieu fait grâce, on arrive à un niveau où sur nos comptes, l'église, on a 300, 500 millions et on crée notre banque avec 500 millions. C'est tout. La banque, c'est que de l'informatique. Hein. C'est des logiciels avec des comptes sécurisés, tout ça. Et puis, vous venez tous mettre votre argent là. Et puis, voilà. Puis après, vous gérez ça. Tu t'adresses à des pays comme l'Amérique ou bien la Chine. Et puis, on fait fabriquer les cartes bancaires que tu donnes aux gens. Il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple. Vous obtenez les autorisations auprès des organismes financiers. Et puis, ta banque est créée. Hein. C'est pour ça que quand vous trouvez certaines banques, vous les trouvez toujours parfois dans des petits coins de rue, dans un petit bureau, et puis vous dites, c'est une banque ici, là. Parce que tout simplement, ils ont commencé petit. Aujourd'hui, il y a même des banques qui n'existent que sur Internet. Tout est informatisé. Tout ce qu'il faut, c'est de la liquidité. C'est pour cela que je suis convaincu que Dieu nous donne cette parole-là. Parce que Dieu est en train de lever un peuple. Il est en train de nous préparer. Et je déclare, je décrète qu'on va être les premiers à créer une banque. Au nom de Jésus. Il faut rêver grand dans la vie. Hein. Je pense que ce n'est pas possible au Gabon. Gabon, il y a bon, mon ami. On va y arriver. Il faut juste avoir la vision. Tu as vu, j'ai fait des rimes là. Alléluia. Donc, le pauvre, il ne sait pas où sécuriser son argent. Le riche, lui, il sait. Il sait. Le pauvre investit son argent dans les placements financiers divers que lui propose son banquier qui lui aussi est pauvre comme lui. Le riche, il investit son argent dans des actifs qu'il comprend et gère lui-même. Ce sont des choses qu'on ne vous apprend pas à l'école. Hein. Quand tu sors de l'école, on te dit non, va travailler pour eux. Mets ton argent chez eux, il n'y a pas de problème, tu seras un bon employé. Ça, d'accord? Non, ton papa, ton vrai papa, Dieu il te dit non, va travailler pour eux. Acquiert l'intelligence et la sagesse. Deviens intelligent. Regarde comment il fait. Ensuite, tu sors de là et tu fais la même chose. La deuxième question que je te pose, et on est en train d'atterrir, c'est que veut dire investir? Dis avec moi investir en actif. Quand on parle d'investissement, il faut savoir ce que ça veut dire. Regarde ce que Jésus-Christ nous dit. On a déjà lu ce verset la semaine dernière et je le relis. Parce que la véritable définition de l'investissement, c'est celle que Jésus-Christ donne. Dans Marc 4, verset 26. Il dit encore, en parlant de Jésus, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car le pognon est là. Non, la moisson, excuse-moi. Qu'il veille ou qu'il dorme, la semence germe nuit et jour sans qu'il sache comment. Voici la définition même d'un investissement. Tu ne fais rien, tu fais autre chose et ça prend de la valeur. Et on parle d'investir dans un actif. Qu'est-ce qu'un actif? Un actif, c'est un bien de valeur qui est pour nous une source fiable. Dis avec moi une source fiable. De revenus qui nous génèrent de l'argent sans faire d'effort. Souviens-toi que le riche investit dans des actifs. Le pauvre, il travaille tous les jours pour avoir de la monnaie. Le riche, il ne cherche pas de la monnaie. Le riche, il veut investir dans des actifs qui lui génèrent de l'argent sans qu'il fasse d'efforts. Là, je suis en train de vous donner toute la philosophie même de l'association Oser Entreprendre qu'on a créée. Un bien de valeur qui amène l'argent dans ta poche, même en ton absence et même quand tu dors. Ça amène quand même de l'argent. Tu te réveilles le matin et tu vois, ça t'a rapporté de l'argent. Pourtant, tu dormais. Tu es parti en voyage, tu es revenu, ça génère toujours de l'argent. Un actif, c'est un bien qui prend de la valeur sans cesse, plus ou moins selon les circonstances, mais qui prend de la valeur. Dis moi un actif. Plus il prend de la valeur, plus ta capacité de financement augmente et plus tu deviens riche. Capacité de financement, c'est ta capacité à acheter les choses, à faire des choses avec de l'argent. Donc, le riche, plus il a d'actifs qui ont de la valeur, et plus il est puissant financièrement. Le pauvre, il n'a pas d'argent, il n'a pas de capacité de financement parce qu'il n'a pas d'actifs. Il a un boulot, c'est tout. Le riche, il n'a pas de boulot, il a des actifs. Vous me suivez? C'est un bien qui prend de la valeur. N'oublie jamais ça. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu voudras maintenant te lancer dans un business, tu vas toujours te poser ces questions-là. Ok, un, le business dans lequel je suis en train de me lancer là, ou bien la chose sur laquelle je suis en train de mettre mon argent là, est-ce que ça va me générer de l'argent sans que je fasse d'efforts? Ou bien je vais peut-être devoir faire des efforts peut-être un peu au début, mais au bout d'un moment, je vais devoir ne plus faire d'efforts. Parce qu'en général, c'est ça. Quand par exemple, tu démarres un business, une affaire, au début, c'est toi-même qui est au four et au moulin. D'accord? Tu es là toi-même. Au bout d'un moment, il faut que ça devienne, ça s'autofinance tout seul. Et puis toi, tu fais autre chose. Ça tourne seul. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, quand tu crées une entreprise, au bout d'un moment, tu te rends compte que la boîte commence à marcher et tu es obligé d'embaucher. Et en fait, ta boîte commence à devenir un actif quand tu as des gens qui commencent à travailler pour toi. Pendant ce temps, toi, tu fais autre chose. Là, ça commence à devenir un actif. Le summum du summum, c'est quand ta boîte, un jour, est propulsée en bourse. Le jour où elle est propulsée en bourse, là, c'est plus les gens qui travaillent pour toi. Là, ce sont tes actions qui travaillent pour toi. Ça, c'est le rêve de tout entrepreneur. Vous me suivez? Ensuite, tu te demandes, là où je vais mettre mon argent, est-ce que ça va me ramener de l'argent dans mes poches ou bien ça va tout le temps solliciter mon argent? Parce que quand tu as un bien qui tout le temps sollicite ton argent, il faut t'en séparer. Maintenant, vous en avez plein comme ça chez vous. Je commence par les voitures. Quand tu, là, tu regardes le pasteur, ah, le pasteur, en ce moment, le pasteur, il n'a pas de voiture, mais le pasteur, il n'a pas de problème d'argent avec une voiture. Vous avez des voitures qui vous font dépenser de l'argent. Enfin, encore mis ça sur le mécanicien, enfin, encore sorti 100 000, 150 000, tout ça, là. Moi, je préfère être tranquillement, comme je suis. Tu peux aussi te poser la question, mais pourquoi il n'a toujours pas acheté une voiture? Parce que tout simplement, ce n'est pas une priorité pour moi. Mon argent, je suis en train de sérieusement l'investir sur des puissants actifs. Quand le retour sur investissement va venir, là, c'est pas une Carina que je vais me prendre. Je te dis déjà, faudra pas dire que le pasteur a pris vos 10 mots. Ah, faudra pas dire. Le jour où vous allez me voir louer et sauter le plafond, là, c'est que mon actif a commencé à tourner. Oh, vous savez. Non, mais tout le monde ne loue pas Dieu de la même manière, avec le même état d'esprit. Il y en a quand il loue. Oh, mais quand il danse là. Oh! Il fait des potes et tout, mais parce qu'il sait que il y en a parce que vous avez trop de problèmes d'argent. Faut louer le Seigneur. Ah, quitte là. Il y en a quand ils sont contents là. Oh, mais toi aussi. Il y avait une vidéo comme ça qui tournait sur Facebook où il y avait envoyé un gars qui venait devant et puis il dansait. Oh, il tournait. Oh, mais le gars, il avait loué le Seigneur le jour-là, quoi. Tout le monde a vu cette vidéo sur Facebook. Ah, il était fort, cette vidéo-là. Tandis que le gars, il l'avait reçu. Alléluia. On avance. Tu te demandes aussi, est-ce que ce sur quoi je suis en train d'investir, là, ça prend de la valeur ou ça perd de la valeur? Et je t'apprends qu'une voiture ne prend pas de la valeur. Elle perd de la valeur. Quand tu achètes une voiture chez un concessionnaire, dès qu'elle sort de chez le concessionnaire, à peine elle est arrivée sur la route, elle a déjà perdu 30% de sa valeur. Donc, le riche, je t'apprends que les riches n'achètent pas les voitures. Ce sont leurs actifs qui achètent les voitures. Amen. Le riche veut s'acheter une très belle voiture. Il vient de voir passer le dernier Touareg et il veut s'acheter le Touareg. Pourtant, sur son compte bancaire, il a de l'argent suffisamment pour s'acheter le Touareg. Il ne veut pas toucher à son argent pour acheter le Touareg. En revanche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir un client, il va négocier un marché. Et quand le Touareg coûte 50 millions, et lui, quand il décroche le marché, on lui demande combien tu veux être payé, il va négocier le marché à 100 millions. D'accord? Et il va attendre de faire la prestation, que le client le paye. Et quand le client va le payer, il va prendre 50 millions pour lui et il va prendre les 50 millions pour acheter la voiture. Ce n'est pas lui qui a payé la voiture parce qu'il n'a pas touché à son argent. Donc, à la fin de la journée, il se retrouve avec 100 millions, avec plus d'argent sur son compte bancaire et la voiture. C'est comme ça que le riche réfléchit. Le pauvre, il voit le Touareg passer, il regarde son compte bancaire, il voit qu'il a 50 millions, il va prendre les 50 millions, il va l'acheter le Touareg et il n'a plus rien sur le compte bancaire. Ça, c'est le pauvre. Je vous assure, si vous voulez voir si les gens sont pauvres ou pas, regardez comment ils réagissent quand ils ont de l'argent. Les vrais riches ne se précipitent pas pour consommer, jamais. Parce qu'ils se demandent toujours, mon argent là, ça va dans un actif ou ça va dans un passif? Quelque chose qui me fait dépenser de l'argent. Un jour, j'étais avec quelqu'un, avec mon frère, à l'époque il travaillait à Paris et on devait se voir. Il travaillait dans une grande banque de la place. Et puis là, il descend dans la rue pour me donner le document que j'étais venu chercher. Et là, je vois un monsieur qui vient à vélo, qui se gare. Et puis, il fait « Bonjour, monsieur, ça va ?» Il nous salue tous les deux. Et puis, il dit « Bon, on se voit en haut pour le boulot. » D'accord. Et il monte. Je demande « Qui est ce monsieur ?» Il me dit « On ne néglige pas le monsieur. » Tu vois la banque là, au niveau européen, c'est lui le patron. Il est payé, à base minimum 50 millions d'euros, moins. Les euros. Et c'est-à-dire son salaire, plus toutes les primes qu'il touche, etc. C'est-à-dire qu'il est insolemment lourd. Mais le gars, et mon frère me dit, il n'a pas de voiture, il ne veut pas acheter une voiture. Il roule en vélo, ce gars-là. Il vient avec son MP3 ici, tu le vois arriver, je l'ai vu arriver, MP3 sans cravate. Il garde son vélo. Et quand je te parle là, tu penses que le vélo c'est à lui? Non, à Paris, il y a maintenant le système des vélos qu'on loue 1 euro, là, les Vélib. Donc il va et loue le vélo 1 euro et c'est avec ça qu'il va au boulot. Il ne veut pas dépenser d'argent, ce gars-là, parce que son argent va ailleurs. Il dit, mais pourquoi tu veux que je m'embête à acheter une voiture qui coûte je ne sais pas combien, tout le temps dans les embouteillages? Je m'en fous, je n'ai pas besoin d'acheter une voiture, je prends un vélo. Et pourquoi tu veux que j'aille payer un vélo? Je loue le vélo. Toi, le pauvre, tu vas dire, oh, vraiment, moi, je veux la voiture. Mais c'est ça la différence entre les riches et les pauvres. Donc, fais attention à ton argent. La différence entre un actif et un passif, justement, vous l'avez compris, c'est que le passif est un bien qui n'est pas pour toi une source fiable, d'accord, de revenus, qui ne génère pas d'argent, mais te demande plutôt d'en faire sortir. Le passif, c'est un bien qui va chercher tout le temps de l'argent dans ta poche et le passif te demande sans cesse d'être présent physiquement pour le faire tourner. Le passif est un bien qui consomme ton énergie. Tout ce qui consomme ton énergie et ton argent n'est pas un actif. Il ne t'enrichit pas, mais au contraire, t'appauvrit. C'est pour cela que quand tu comprends maintenant cette philosophie entre le riche et le pauvre, tu comprends que même la maison où tu vis n'est pas une source de richesse pour toi. Car la maison dans laquelle tu vis ne te rapporte rien. Quelle est la première chose que les gens qui ont de l'argent font? Dès qu'ils ont de l'argent, ils vont se construire une maison. N'est-ce pas? Ils vont se construire une maison. Cette maison ne leur rapportera jamais d'argent. Cette maison va plus leur amener des problèmes. Ils vont dépenser l'eau, le courant, l'entretien, etc. Le pire, c'est qu'ils se construisent de grandes maisons. Difficile à entretenir. Et après, vous voyez les maisons tomber en lambeaux dans Libreville. Les vrais riches, quand vous les voyez, ils n'ont pas des grandes maisons. Ils ont des maisons bien, sympas et confortables qu'on peut entretenir facilement. Ça, les vrais riches. Un jour, je rencontre un de mes clients quand j'étais conseiller en gestion de patrimoine. Et ce monsieur, ça faisait 15 ans, il vivait dans une maison en location. Alors, quand je suis arrivé et qu'il m'a dit qu'il était locataire de la maison où il vivait, j'ai encore regardé mon dossier en me demandant, je suis chez la bonne personne là? Parce que quand je regarde le dossier, le monsieur est millionnaire. Il a plus d'un million d'euros d'argent. Je venais le voir pour lui proposer des placements financiers. Et quand je viens le voir, il me dit, il est locataire. Je regarde encore le dossier, je me rends compte que ce monsieur, il a des dizaines de biens qui lui appartiennent, qui sont en location. J'ai dit, mais monsieur, pourquoi vous ne prenez pas, plutôt, vous n'achetez pas un bien que de louer? Il me dit, toi, t'es pauvre, toi. J'ai dit, pourquoi? Parce que tout simplement, j'en ai pas besoin. T'as pas vu tous les biens que j'ai? Pourquoi je vais m'embêter à aller acheter un appartement qui va rien me rapporter? Je suis jeune, je suis dynamique, j'aime la vie. Je loue. Comme ça, cet appartement, il ne me coûte rien. Tout l'entretien, c'est le propriétaire qui s'en occupe. Moi, mes biens, ça me rapporte de l'argent. Et en plus, le loyer que je paye, c'est même pas moi qui le paye. C'est un de mes locataires, quand il me donne un loyer, il paye ça. Moi, je ne sais rien, moi. Tu vois? Je le regarde, je fais, ah, ça, c'est qui m'a demandé ça. Et dès qu'il y a un trou dans le mur ou un truc qui est cassé dans la maison, moi, j'appelle le propriétaire. Oh, venez réparer ça, monsieur. Et le propriétaire a cours pour réparer. Moi, j'ai pas envie de m'embêter. Moi, j'ai fait en sorte que tous mes biens soient aux normes. Et comme ça, mes locataires ne m'embêtent pas. Tous les mois, ding, 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 ça tombe. Et quand ça tombe, je prends juste ce qu'il faut dedans pour payer le loyer. Le reste, je m'enrichis. Et puis en plus, ce rythme-là, je peux même changer d'appartement tous les mois si je veux. C'est pour ça que le pauvre peut garder la même voiture 10 ans. Le riche, il peut changer de voiture tous les ans. Et jamais c'est lui qui paye la voiture. Ce sont ses actifs. Si ce n'est pas ses biens immobiliers, c'est sa société qui paye ses voitures. Mais jamais il va sortir un rond pour s'acheter une voiture. Il ne paye rien, le riche. Il a fait en sorte que les actifs travaillent pour lui. Vous me suivez là? Il y en a qui se disent, là, le pasteur, il nous raconte quoi? Il y a dans mon monde. Tu vas voir que mon monde là, c'est le meilleur des mondes, mon ami. Ah, allez, on va finir. Allez, actif ou passif? Je vous ai fait un petit schéma pour terminer. Tu vas comprendre la différence entre le pauvre et le riche. C'est le riche, d'accord? Le riche, il n'a pas de travail. Le riche, il n'a pas de salaire. Le riche, il a investi sur des actifs, biens, d'accord? Ce sont ces biens-là qui lui génèrent des revenus, d'accord? Le pauvre, lui, il n'a pas d'actifs. Il n'a que un salaire qui va essentiellement dans les dépenses, d'accord? Et quand il a des biens, en général, ces biens, ce ne sont pas des biens qui prennent de la valeur, mais plutôt qui se déprécient et lui coûtent de l'argent et aussi lui créent des dépenses. Je suis. Donc, la différence entre les deux, c'est que lui, le riche, il va toujours chercher à acquérir encore plus d'actifs et plus il a d'actifs, plus ses revenus augmentent. Pendant ce temps, il joue au golf. Le pauvre, lui, il n'a qu'un travail sur lequel il s'appuie, qui lui permet de s'occuper de ses dépenses. Et quand il a des biens, ses biens lui permettent, lui créent aussi des dépenses. Alléluia. Et au niveau de leur capacité de financement, c'est-à-dire leur capacité à acheter des choses dans la vie, eh bien, le riche, lui, il a des actifs, des biens immobiliers. Il a des choses que j'ai appelées propriété intellectuelle, c'est-à-dire des livres, des chansons, trucs qu'il crée. Par exemple, il y en a parmi vous, vous êtes capable d'écrire des livres. Vous êtes allé à l'école, vous avez des MBA et vous avez une forte expérience professionnelle. Écrivez des livres. Un livre, tu payes le prix qu'il faut, tu l'écris pendant quelques mois. Quand tu l'as écrit, le livre là, il est sorti. Et le livre là, quand c'est sorti, les gens payent ça sans que tu fasses d'efforts. On va t'inviter sur des chaînes de télé, de radio. On va même t'inviter à faire des conférences. Et tout ça, quand tu finis les conférences, les gens achètent encore tes livres. C'est un puissant actif. Je t'assure, quand tu vas écrire ton premier livre, tu vas prendre plaisir à ça et tu vas avoir envie de sortir d'autres livres. Propriété intellectuelle, des chansons. Il y en a parmi vous, vous êtes des chantres de l'éternel. Vous pouvez écrire des chansons. Les chansons, vous les mettez en téléchargement sur Amazon ou bien iTunes sans faire d'efforts. Vous vous réveillez le matin, les gens ont téléchargé ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est jouer le beau sur Facebook et faire la promo de vos chansons. C'est tout. Et ça vous rapporte de l'argent. Il a des actions, des obligations. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, il va investir dans des actions et avoir des participations en entreprise. Et tout ça, ça lui rapporte quel type de revenus? Ça lui rapporte des revenus fonciers quand c'est de l'immobilier. Ça lui rapporte des dividendes quand c'est des actions. Ça lui rapporte des intérêts quand c'est des obligations, mais en dividendes aussi. Ou toutes sortes de redevances. C'est-à-dire toutes sortes de revenus sans qu'il fasse d'efforts. Par exemple, ceux qui sont dans l'immobilier. Vous avez une maison, deux maisons qui est en location. Multipliez. Construisez des maisons. Prenez des actifs. C'est du patrimoine. Un jour, vous êtes tranquille. Vous pavanez à l'autre bout du monde, ça vous rapporte de l'argent. Vous suivez? L'immobilier, c'est très puissant. On va avoir un enseignement spécialement sur l'immobilier. Le pauvre, lui, qu'est-ce qu'il a? Tout ce qu'il a, son emploi. Et c'est avec ça qu'il gère ses loyers, sa nourriture, ses assurances, son entretien, ses maquillages, ses pannes de voiture, tout. Il gère tout avec son emploi. Il n'a pas d'actif. Il galère. Il se bat, il transpire, il travaille le matin. Il est fatigué. Il a les cheveux blancs à 25 ans. C'est compliqué, tu vois. Et tout ce qu'il a comme bien, c'est sa maison. Et quand il a un peu pris un petit crédit pour payer des travaux ou bien la maison, c'est hypothéqué. Qu'est-ce que ça veut dire hypothéqué? Ça veut dire que la maison même dans laquelle tu vis, t'appartient même pas. Pasteur, la maison là, j'ai pris le crédit, elle m'appartient? Non, elle t'appartient pas. Elle t'appartiendra le jour où tu auras fini de rembourser le crédit. Essaie de ne pas rembourser le crédit là pendant quelques mois. Tu vas voir à qui appartient la maison. Hein? Alléluia. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc comment est-ce que je prospère dans la vie? C'est la dernière question. Eh bien, pour prospérer dans la vie, c'est très simple, vous l'avez compris. 1, je gère bien mon argent. 2, je le garde et je le protège. 3, je l'investis intelligemment dans tout ce qui constitue pour moi un actif. Pour produire de la richesse. 4, je grandis en intelligence financière en lisant des bouquins, en me formant. Combien d'entre nous, on n'investit pas dans la formation pour aller se former? Aujourd'hui, il y a même des formations sur YouTube. Au lieu de passer ton temps à regarder Facebook et YouTube, tu peux te former sur Internet et apprendre beaucoup de choses qui vont changer ta vie. Tu vises les meilleurs actifs tels que l'immobilier ou les actions ou les obligations. Surtout l'immobilier, car l'immobilier est l'un des premiers actifs qui prend de la valeur très rapidement. D'accord ? L'immobilier ou la terre, quand on dit immobilier, c'est la terre aussi, les terrains, plein de choses. Tout ça, ce sont des puissants actifs. D'accord ? Et ça, quand tu l'as fait, tu deviendras prospère. Mais n'oublie jamais une chose. N'oublie jamais une chose. Et c'est ce que Salomon nous dit. Dimanche du miel. D'accord ? Car ça fait plaisir tout ça. Mon fils, car le miel fait du bien et le goût t'en sera agréable. Rappelle-toi, d'accord, que la sagesse aussi est bonne pour ta vie. Si tu arrives à la pratiquer, tu auras un avenir. Ton espérance ne sera pas déçue. Il rajoute dans Ecclésiaste au chapitre 12, verset 12. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses que je viens de partager avec toi ce matin. On ne finira pas. Si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études, est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu. Dis avec moi, crains Dieu. Et observe ses commandements. C'est là que tu dois faire en tant qu'homme. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à bénir l'Éternel simplement? Aujourd'hui, le Saint-Esprit voulait que je te donne cette parole. Parce que le Seigneur est en train de nous ouvrir les yeux. Le Seigneur est en train de se préparer un peuple. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne saisissent pas encore. Beaucoup ne saisissent pas. Mais bien aimé, si Dieu a dirigé tes pas dans cette église, c'est parce que Dieu voulait que tu entendes ces choses. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, connaissent des luttes financières. Une des premières choses à faire pour sortir de cette lutte financière, demande déjà pardon à Dieu pour toutes les fois où tu as très très mal géré ton argent. Toutes les fois où tu as pris la manne que Dieu mettait entre tes mains et que tu lapidais ça en faisant n'importe quoi. Aujourd'hui, Dieu nous éclaire et Dieu te montre le chemin vers la création de richesses. Aujourd'hui, Dieu ouvre nos yeux pour comprendre l'importance d'investir dans des actifs. Tu te dis, mais Seigneur, je n'ai rien pour commencer. Rappelle-toi que Jésus-Christ leur a dit la même chose. Et ils ont répondu, Seigneur, nous n'avons rien. Il leur a demandé, qu'avez-vous? Je n'ai que 2 pains et 3 poissons. Il dit, c'est bon pour commencer. Ok, Seigneur, je n'ai rien. Je n'ai que quelques billets en compte, mais je ne sais pas quoi faire. Dieu dit, prends ça, sème-le si tu es conduit par l'Esprit. Sème-le, plante-le et le Seigneur t'ouvrira une porte où il permettra que tu reçoives une manne particulière, exceptionnelle. Et cette manne-là, tu commenceras à l'investir. Il y en a, vous n'avez pas besoin de partir sur des gros projets. Il y en a, vous pouvez avoir un petit bout de terrain quelque part et avec un peu d'argent, commencer à monter les briques doucement, brique après brique. Construire d'abord un petit studio. Et ce petit studio, vous pouvez commencer à le mettre en location pour 50 000 francs par mois. Et après ce studio, Dieu, comme dit dans Deutéronome chapitre 28, Dieu va bénir le fruit de ton sol et de ton menu bétail. Dieu va bénir ce studio. Et ce studio va faire naître un autre studio, puis un deuxième studio. Et après, ce sera 2 chambres, 3 chambres. C'est comme ça que tu commenceras avec le Seigneur. Il y en a d'autres, vous commencerez. Et vous irez ouvrir un portefeuille en bourse. Vous prendrez des participations dans des entreprises. Et vous commencerez à percevoir des dividendes. Et avec ces dividendes, vous prendrez cet argent et vous investirez. Vous commencerez à faire beaucoup de choses avec cet argent. Il y en a d'autres, vous commencerez à écrire des livres. Vous commencerez à produire des choses que vous voyez dans votre esprit. D'autres, vous allez créer des entreprises. Vous allez vous consacrer à développer vos entreprises. Et ces entreprises vont devenir de véritables sources fiables d'argent que vous pourrez utiliser pour investir simplement. Et le Seigneur veut qu'on fasse tout cela parce qu'il veut préparer un peuple sage et fort qui servira à financer l'Évangile. Et quand nous financerons l'Évangile, nous aurons de puissants moyens entre les mains. Nous pourrons même bâtir des écoles, des orphelinats, des banques. Parce que tout simplement, il a dit, « Je ferai de toi la tête et non la queue. » Est-ce qu'on peut prier simplement au nom de Jésus-Christ à Kata? Roma Kata Yababahane. Si le diable s'est élevé pour menacer tes finances, lève-toi et prie et commence à le menacer, lui. Commence à lui dire au nom de Jésus, plus jamais tu prendras mes finances. Au nom de Jésus, aujourd'hui je suis éclairé et tu ne prendras plus jamais mes finances. Parce que l'ennemi profite de l'ignorance pour manger les finances des enfants de Dieu. Mais je déclare et je décrète au nom de Jésus que plus jamais tu ne mangeras les finances du peuple de l'Éternel. Je déclare et je décrète de manière prophétique que l'onction du miel coule sur ce peuple au nom de Jésus-Christ et que toutes les forteresses qui avaient été érigées pour empêcher le peuple de Dieu de prospérer, je renverse ces forteresses au nom puissant de Jésus. Je prophétise que ce peuple prospère. Je parle aux ossements desséchés et que maintenant ils reprennent vie au nom de Jésus. Que les comptes bancaires reprennent vie. Que les dettes soient asséchées au nom puissant de Jésus-Christ. Que les crédits cessent et que le peuple de Dieu commence à prospérer au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute forme de blocage dans les foyers qui empêche les couples de prospérer au nom de Jésus-Christ soit complètement débloquée. J'appelle de manière prophétique l'onction de grâce, de faveur et de richesse sur ce peuple au nom de Jésus. Et je décrète une faveur divine en cette saison au nom de Jésus. Je prophétise une moisson exponentielle et exceptionnelle en cette année au nom de Jésus-Christ sur ton peuple. Alléluia, mandelebo sta katayaba. Oh katayaba, parce que ton ancienne prospérité ce ne sera rien comparé à celle qui est en train d'arriver au nom puissant de Jésus. Il dit, je suis l'Éternel et voici, je fais toutes choses nouvelles au milieu de mon peuple. Merci Père, parce que tu fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Oh rababa handelebosta. Le meilleur est à venir. Cette saison sera rayonnante. Cette année sera exceptionnelle. Attends-toi au meilleur. Parce que tout simplement, cette saison, Dieu fait toutes choses nouvelles. Il prend la stérile et en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Il prend le pauvre et le fait asseoir à la table des grands. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel en cette année. Je l'annonce à l'avance et les témoignages pleuvront au nom puissant de Jésus-Christ. Makata rebos na babahande rebos. Yeah, mama hande rebos ta kata rebos. Yeah, kata. Oh, mahande yeba. Oh, Yahweh. 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 Oh, manai. Yahweh. Nous te bénissons, Père.
Espérons que vous avez été richement édifié par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.